Europe 1.
8h13, bonjour Emmanuel Wargon.
Bonjour Dimitri Pavlenko.
Vous êtes la présidente de la CRE, la Commission de Régulation de l'Énergie. Une simulation de délestage va avoir lieu aujourd'hui à l'échelle nationale, Emmanuel Wargon. C'est la répétition générale avant les vraies coupures, cet exercice.
C'est la préparation à ce qui se passerait si on devait vraiment aller jusqu'aux coupures.
Si on devait. Hein,
mais si on devait, parce que je parle vraiment au conditionnel, parce que c'est vraiment évitable. Et je pense que c'est important de le dire. D'un côté, tout le monde se prépare, et c'est normal et c'est responsable. De l'autre, on est dans un système dans lequel on peut passer aussi. On peut passer tout l'hiver avec suffisamment d'électricité. Et c'est pas exactement comme une alerte météo dans laquelle une tempête arrive et il n'y a pas grand chose à faire que attendre et se protéger par rapport à la tempête. Si on a des alertes sur la tension sur le système électrique, on peut tous agir. Les entreprises, c'est important. Les bureaux, c'est très important aussi. Et les particuliers, chacun à son échelle.
Oui.
Donc, tout ceci n'est pas une fatalité.
On va parler de ça dans un instant. Mais c'est d'abord sur cette simulation de délestage, évidemment, jamais on n'a fait autant attention. Il y en a régulièrement.
Hein, oui, bien sûr, il y a des exercices tout le temps.
Mais qui va y prendre part et comment ça va se dérouler très concrètement? Est-ce que des quartiers vont se retrouver comme ça, coupés pour voir si ça marche?
Non, pas du tout. Personne ne verra rien. Donc, les équipes techniques font des tests pour savoir si elles sont en capacité d'appliquer des consignes, comment, etc. Mais elles font des tests en back-office, si je peux dire. Donc, personne ne verra aucune coupure aujourd'hui. Et ce qui s'est passé hier à Paris, je le dis tout de suite, ça n'a rien à voir. Il y a eu un problème technique sur un poste. Il a été réparé très vite et ça n'a rien à voir avec un exercice de délestage.
Alors, Emmanuel Wargon, on vous pose beaucoup de questions techniques, comme si vous étiez une opérationnelle du système énergétique français, ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisque la CRE, en l'occurrence, c'est le régulateur du marché, c'est le gendarme, comme on dit. Ceci dit, vous connaissez, vous savez comment ça marche. Alors, RTE nous a averti il y a quelques jours d'un risque élevé de tension sur le système électrique, ce dont on vient de parler. Mais on a beaucoup fouillé dans notre mémoire et retrouvé ce blackout de 1978. Tous les experts nous disent, non mais c'est inconcevable, un court-circuit géant incontrôlé qui dure comme ça une demi-journée, voire une journée entière. Est-ce que c'est sûr aujourd'hui, Emmanuel Wargon? Est-on certain de garder la main, si je puis dire, sur les coupures, de garder le contrôle?
Alors, d'abord, vous l'avez dit, la CRE, c'est pas le gestionnaire du réseau, la Commission de Régulation de l'Énergie que je préside, c'est le gendarme des marchés, en gros, pour à la fois piloter les gestionnaires de réseau et surveiller les marchés de gros et de détail. Après, dans la relation très grande proximité que nous avons avec les gestionnaires de réseau, on est très confiant sur le fait qu'on ne perdra pas la main sur le système électrique. Le blackout, c'est la panne générale où plus personne ne sait comment faire parce qu'on ne maîtrise plus rien. Et ça, c'est les scénarios du pire. Il peut toujours se passer une catastrophe. Donc, bien sûr, on ne peut jamais dire jamais.
Mais en soi, on a les outils.
C'est un scénario qu'on envisage. Oui. Pas du tout.
Les baisses de tension, les effacements, tout ça, ça permet d'éviter ce genre de scénario.
En fait, vraiment, pour dire les choses le plus simplement possible, on a moins de marge de manœuvre sur le système électrique cette année que les années précédentes, à la fois parce qu'il y a une tension générale en Europe et à la fois parce que la production nucléaire d'EDF est moins forte que d'habitude.
Oui.
Comme on a moins de marge, on se prépare à des mesures d'ajustement. Et les premières mesures d'ajustement, ce sont les entreprises qui s'effacent, c'est-à-dire qui arrêtent d'utiliser pendant quelques temps.
Volontairement et rémunérées
volontairement,
pour cela,
de manière rémunérée, de façon programmée. Ce sont des baisses de tension dans le réseau. Et donc le délestage, c'est-à-dire la coupure, c'est vraiment la dernière des dernières mesures si on n'arrive pas à faire mieux.
Vous l'avez dit.
Espère bien qu'on arrivera à faire mieux. Il y a eu un signal EcoWatt orange en avril dernier. Personne s'en est rendu compte.
Ah, on n'avait pas l'appli dans les téléphones à l'époque.
Ça a activé ces mesures d'effacement des entreprises. Et donc, si on a d'autres signaux, on espère que tout le monde réagira, auquel cas, on continuera à avoir tous de l'électricité.
Emmanuel Wargon, on sait qu'au fond, le problème, c'est pas tellement la météo. On va la subir. Le fond du problème, c'est le parc nucléaire. Il y a encore un mois, il n'y avait que 26 réacteurs qui fonctionnaient sur 56, donc plus de la moitié du parc à l'arrêt. On en est où aujourd'hui, Emmanuel Wargon? Et surtout, janvier, qui sera apparemment le mois de tous les dangers, on en sera où?
Alors, on est à 38 réacteurs ce matin qui fonctionnent, donc c'est en progression et EDF annonce des retours en production là, dans les jours qui viennent.
Oui.
On suit aussi la puissance, c'est-à-dire la puissance totale que les réacteurs permettent de produire, et donc on est à 38 gigawatts de puissance et on importe beaucoup. Et ce sont les importations qui nous aident.
La puissance, c'est 55.
Alors, la puissance maximale, ça peut aller jusqu'à 60 gigawatts. Et notre objectif est de repasser la barre des 40 rapidement. On devrait pouvoir la passer en janvier.
Deux tiers, quoi,
donc,
la puissance maximale.
Ça ira déjà. Enfin, voilà, on retrouvera un peu de marge.
Oui.
Et ce qui nous aide bien, ce sont les importations. On importe l'équivalent d'à peu près 15 gigawatts de puissance en ce moment, en provenance d'Allemagne, de Belgique, d'Italie.
C'est beaucoup, hein.
Et c'est beaucoup, mais c'est ce qui nous permet d'équilibrer le réseau.
Mais quand on regarde les chiffres, la France, elle a été cette année, 2022, alors c'est une année exceptionnelle, c'est vrai, mais importatrice nette d'électricité plus de 250 jours. En 2015, c'était zéro. On exportait tout de 365 jours.
EDF...
Est-ce qu'il y a pas... Non, mais juste la question, c'est est-ce que c'est accidentel, comme je vais le dire, ou est-ce que notre dépendance à nos voisins, elle est vouée à devenir structurelle, Emmanuel?
En fait, on a eu un choc qui est que EDF, pour des raisons liées à un phénomène qu'on appelle la corrosion sous contrainte sur les centrales et à des décalages de maintenance,
18 réacteurs
a perdu, en gros, un quart de sa production nucléaire par rapport à d'habitude, ce qui est énorme. Et ça va prendre plutôt quelques années pour être totalement en retour à la normale.
C'est-à-dire, quelques années.
Bah, on pense que cet hiver, c'est un peu délicat, probablement l'hiver prochain encore, et puis chaque année, ça va s'améliorer. Ensuite, il faut qu'on produise plus, et donc pour produire plus, il faut plus d'énergie renouvelable. Donc c'est tout le travail sur le développement de l'éolien offshore, mais aussi du solaire, et de l'éolien terrestre, c'est un sujet compliqué parce qu'on a un sujet d'acceptabilité. Il faut que ça se passe bien là où ces éoliennes sont installées. Et il faudra plus de nucléaire aussi, puisqu'on sait que maintenant, on a besoin de beaucoup plus d'électricité. Donc, on a une sorte de course qui va s'engager pour remonter notre capacité de production, tout en continuant à jouer le marché européen, importer et exporter.
Alors, Emmanuel Wargon, là, on a le nez sur les jours qui viennent, les semaines qui viennent, mais vous dites aussi que l'hiver prochain, 2023-2024 sera pire. Mais alors pourquoi pensez-vous que l'hiver suivant sera plus compliqué que celui-là ?
Bon, d'abord, c'est difficile aujourd'hui d'avoir une bonne vision de l'hiver 2023-2024. Mais ce qu'on sait, c'est que les approvisionnements en gaz européens seront probablement plus tendus l'hiver prochain que cet hiver. Or, si en France, on ne consomme pas beaucoup de gaz pour l'électricité, on en consomme beaucoup en Europe. Et par ailleurs, on consomme aussi du gaz à la fois pour le chauffage et pour nos industries. Donc la tension sur le gaz sera probablement encore là l'hiver 23-24.
Après, on n'est pas sûr que les Allemands puissent nous faire la pointe, puisqu'il y aura moins de gaz vraisemblablement l'hiver prochain.
On était très inquiets sur cet hiver, et je pense qu'on montrera collectivement qu'on est capable de le passer. Et du coup, au fur et à mesure qu'on passe l'hiver 22-23, tout le monde va se mettre à préparer l'hiver 23-24.
Ouais. Alors parlons des prix, parce que ça, en fait, c'est le fond du sujet pour vous, la CRE, la Commission de Régulation de l'Énergie. Alors, il y a beaucoup de sujets qu'il faut qu'on passe en revue. Commençons avec celui-là. On sait que les 8% d'économies réalisées la semaine dernière, enfin 10% même, nous dit EDF. Enfin, c'est beaucoup, hein, c'est plus qu'attendu par EDF. On sait que l'essentiel de ces économies, entre guillemets, en fait, ce sont des entreprises qui ont réduit leur activité parce que la facture a flambé. C'est parfois fois 5, fois 10. J'ai même eu des entrepreneurs me raconter que c'était 30, 50 fois plus cher leur facture. On en est où aujourd'hui des prix, Emmanuel Wargon, très concrètement là?
Alors, les prix ont culminé vers août-septembre. Pour juste donner un ordre de grandeur aux auditeurs, le prix de l'électricité qui s'exprime en mégawattheure, c'était en gros autour de 50 euros, un peu plus, un peu moins. Et ça est monté jusqu'à 1200. Donc, il n'y a pas beaucoup de prix qui augmentent autant. C'est vraiment un choc très, très important.
1200, je précise, ça a été un pic.
Ça a été un pic. Hein. Voilà, c'est le point maximum que ça atteint.
Avec une moyenne de 400.
Maintenant, on est autour de 400, entre 400 et 420. C'est l'ordre de grandeur.
8 fois.
C'est mieux que 1200, mais c'est quand même beaucoup moins bien que 50. Face à ça, on a mis en place beaucoup de mesures de protection. Je dis « on », en réalité, sont des décisions du gouvernement. Mais la CRE aide en expertise avant et la CRE les fera appliquer par les fournisseurs. Et dans ces mesures, il y a le bouclier pour les ménages, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'amortisseur pour les entreprises. Et cet amortisseur, en gros, réduit la facture et réduira la facture d'environ 25%.
Oui, pour les TPE-PME.
Pas seulement pour les TPE-PME.
Enfin, j'ai entendu les ETI, les entreprises intermédiaires, se plaindre. Ah ben ça y est, on a encore les grandes oubliées.
Pour les entreprises, les toutes petites, les TPE, sont au bouclier puisqu'elles sont toujours dans les tarifs réglementés.
Comme les particuliers.
Les entreprises PME sont dans ce régime d'amortisseur qui est un gros effort, hein. C'est plusieurs milliards d'euros et ça sera une réduction en gros de 25% de la facture.
Mais ça
et
va
après,
durer,
les autres,
ces prix stratosphériques, là, ça va durer toute
l'année. Juste pour finir sur les entreprises, les autres sont éligibles à des aides de Bercy qui sont des aides de guichet et qui viennent aussi compenser la facture quand la facture est trop importante. J'en profite pour redire aux entreprises et d'ailleurs aux collectivités, il faut signer vos contrats. Nous savons qu'on a encore environ 10 000 ou 15 000 ou 20 000 entreprises qui n'ont pas signé leur contrat pour 2020. 2023.
Et
donc, sans contrat, il n'y a pas de fournisseur. Donc, c'est vraiment important de signer son contrat. Et l'amortisseur s'applique à tous les contrats déjà signés.
D'accord.
Donc, si vous êtes en discussion avec votre fournisseur d'énergie, d'ici à la fin de l'année, il faut avoir signé les contrats.
La clé pour des contrats à prix pas excessif, si je puis dire, Emmanuel Wargon, c'est ce qu'on appelle l'AREN. Alors, c'est un système qui est affreusement compliqué. Je résume simplement, EDF est obligé de vendre à un tarif encadré, 42 euros du mégawattheure, une partie substantielle de sa production électrique. Alors, justement, vous avez demandé aux fournisseurs leur demande, combien ils souhaitaient disposer d'AREN l'an prochain. Vous êtes arrivé à 148,9 TWh de demande. Or, l'État, pour protéger EDF, hein, parce que ça lui coûte très cher de produire cette électricité à bas coût pour ses concurrents, l'État souhaiterait limiter l'AREN à 100 TWh. On a été obligé de monter à 120 cette année. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver dans la même situation là, dans quelques semaines, en se disant, bah, finalement, pour sauver les entreprises derrière, il va falloir augmenter le volume de l'AREN?
Pour aider les entreprises, en fait, pour aider tous les consommateurs, EDF vend effectivement, comme vous l'avez dit, une partie de son électricité nucléaire à un prix bas, 42 euros.
Ah bah c'est un dixième du prix de marché. Hein.
C'est beaucoup moins cher que le prix de marché. Maintenant, on a mis en place d'autres aides pour les entreprises, dont celles dont je vous parlais, le bouclier pour les toutes petites, l'amortisseur pour les entreprises type PME. Oui. Et donc tout ceci donne l'équilibre économique pour l'année prochaine, et a priori cet équilibre est stable. Nous, ce que nous avons fait cette année, et c'est la première fois qu'on le fait, c'est nous avons vérifié qu'aucun fournisseur ne va faire du profit, ne va faire de la spéculation avec cette énergie. Parce que certains fournisseurs avaient la fâcheuse tendance de recruter des clients pour s'ouvrir des droits à cette électricité pas chère, et larguer leurs clients après en leur disant « désolé, j'ai pas très envie de vous faire des contrats pour pouvoir revendre sur le marché ». Ça, c'est inacceptable. Et nous avons donc corrigé la demande d'une quinzaine de fournisseurs que nous avons baissé justement pour être sûr que cette électricité va bien au client final.
Oui, mais
elle
ne
va pas au fournisseur, elle va au client final.
À savoir le volume d'AREN.
A priori, il est stable.
Oui.
De toute façon, c'est une décision du gouvernement, ce n'est pas une décision de la CRE.
Oui, enfin, les décisions, c'est fait pour évoluer. On était à 100, on était monté à 120 cette
année. Il faudra poser la question au gouvernement, mais en tout cas, dans les informations que j'ai, c'est stable.
Alors, dans les relations que vous avez avec les opérateurs, les fournisseurs d'énergie, à propos des énergies renouvelables, vous avez donné ce chiffre il y a quelques jours de cela, 31 milliards de recettes à l'État, c'est ce que va verser le secteur des énergies renouvelables, hein, en vertu d'un mécanisme un petit peu complexe, mais que je vais résumer très simplement, à savoir, on leur garantissait un certain prix d'achat. En contrepartie, quand les prix de l'électricité dépassaient ce prix garanti, eh bien tout ça partait les excédents dans les caisses de l'État. Seulement, vous avez constaté, Emmanuel Wargon à la CRE, que beaucoup de producteurs qui ont profité de ce système se désengagent, résilient les contrats de soutien parce qu'ils ne veulent pas payer pour l'État. C'est de l'ordre de quel montant? Est-ce que ces 31 milliards vont vraiment aller dans les caisses publiques? Parce que ça va financer le bouclier énergétique, ça. Hein.
Alors, d'abord, ces chiffres, ils changent tous les jours parce qu'ils sont liés au prix de marché. Mais ce qui est vrai, c'est que globalement, les énergies renouvelables, on les a très longtemps subventionnées massivement.
Ah bah oui,
parce que dans la période où l'électricité était pas chère, elle était en dessous de 50, elle était plutôt à 30, 35, 40 euros du mégawattheure. Les renouvelables, eux, produisaient plus cher. 60, 70, 80, en fonction des années et des technologies. Donc pendant toute cette période-là, c'est le budget de l'État, donc vos impôts, nos impôts, qui ont financé le développement de ces renouvelables. Maintenant que les prix de marché sont à 400 ou à 500, on a toujours des contrats avec eux pour acheter à 60 ou à 70. Et du coup, ça fait une recette pour le budget de l'État qui vient financer toutes les aides. Mmh. Les boucliers, l'amortisseur pour les entreprises.
Ah oui.
Donc cette recette est importante et c'est vrai qu'on l'a chiffrée un peu plus de 30 milliards. Maintenant, certains producteurs avaient des contrats qui leur permettaient de sortir. Et c'est vrai que on se dit, ils ont été subventionnés pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans.
Ben oui,
et maintenant, ça serait bien que voilà, ce soit réciproque. Et donc, à partir du moment où ces contrats leur permettent de sortir, un autre mécanisme a été mis en place qui s'appelle la taxation de ce qu'on appelle, et je suis désolée, on jargonne beaucoup dans l'énergie, la taxation de ce qu'on appelle la rente inframarginale, c'est-à-dire, dit en français, la taxation de ces profits un peu exceptionnels. Et donc, ce que nous n'aurons plus dans les contrats, on le retrouvera dans cette taxation. Du coup, il ne devrait pas y avoir d'échappement dans le système.
Merci Emmanuel Wargon d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. Je vous rappelle que vous êtes la présidente de la commission de régulation de l'énergie, la CRE. Bonne journée à vous.
Bonne journée.
8h28 sur Europe 1 dans un instant.